Encore 20 secondes. Encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, partez.
12 postes.
Tous les postes de radio
sur Divergence FM.
Alors là, oui.
Tous au poste,
midi 13h,
17h, 18h, agenda,
nouveautés discographiques,
interviews et informations internationales.
Tous au poste, tous au poste, tous au poste.
Je continue.
Souffle du nez en même temps.
Place entre chaque mot. Moi, je vais tout mettre au rushing.
Nous parlons tous dans la logosphère. Vous êtes ici, si vous voulez bien prendre la parole tout à l'heure,
avec, lui.
Avec moi,
sur même
les citoyens de la logosphère.
C'est le mot que je cherchais.
La radio,
autrement.
Encore plus intense, encore plus incisive.
Tous au poste,
la radio,
vraiment. Pour tout le monde, comme la vie.
Tous au poste sur Divergence FM.
Et bienvenue à tous et à toutes dans ce Tous au poste. Bienvenue, nous embarquons pour une virée culturelle. Attention, aujourd'hui, eh bien, on parlera d'humanité, oui, oui, d'humanité, à travers un spectacle, en tout cas une lecture et des expositions disséminées à travers la ville par le collectif Exit. Ce sera possible, voilà. Ensuite, eh bien, Christian Coste recevra en première partie, eh bien, le conseil de la vie de l'humanité. Je crois que c'est ça, en tout cas, il nous en dira plus. Oui, c'est le comité de vigilance face aux usages public de l'histoire. On parlera d'identité nationale. Vous êtes donc dans notre Tous au poste. Nous sommes le mardi 2 février. À ce même jour, il y a 128 ans, eh bien James Joyce naissait. Bonjour. Bruno Bertrand à la technique, Christian Coste et Julia Chamaudon au micro. Nous sommes ensemble pendant 50 minutes. Le soleil brille. 50 minutes où l'on embarque pour une petite virée culturelle avec des bons plans. Les bons plans du jour, la nouveauté discographique de la semaine et puis donc deux interviews. Mais sans plus attendre, passons à nos bons plans. Si vous êtes adolescent, comme on dit teenager, eh bien vous allez peut-être voir les Bébés Brunes, un groupe de pop rock avec son nouvel album Nicotine Love. Ça promet à 20h au Rockstore, 20 rue de Verdun. Il vous en coûtera eh bien 23,10€. Attention, c'est complet. Peut-être quelques places à grappiller, ne sait-on jamais. Une dédicace et un mini-concert à 17h30 au forum de la FNAC au Polygone pour les avertis. Au bar La Pleine Lune, changement d'univers, ce sera les Nuits Tziganes à 21h30, 28 rue du Faubourg Figrolles, l'entrée est libre. Mojo Band, un groupe de blues boogie, en première partie une jam session avec l'école Le Phare et une scène ouverte aux musiciens de blues. Ça va blueser donc à partir de 20h30 à l'Apollo Jazz Café, 129 avenue de Palavas, l'entrée est gratuite. Le Brésil est à l'honneur à Villeneuve avec Fedegunda, un conte musical de et mis en scène par Karen Accioli sur une musique de Camille Rocailleux avec notamment Camilla Caputi, Vladimir Pinero, Cristiano Pena et le pianiste Grégory Ballesteros. C'est dans le cadre du projet franco-brésilien. L'histoire, c'est une jeune fille qui a perdu son cœur. Va-t-elle le retrouver? Eh bien, vous en saurez plus à 20h30 au théâtre du Centre Béranger de Frédol à Villeneuve-les-Maglones pour un prix tournant autour de 7 euros. Du classique avec Verdi, c'est Othello, l'opéra de Giuseppe Verdi, adapté de la pièce de Shakespeare qui sera interprétée par l'Orchestre National et les chœurs de l'Opéra National de Montpellier, dirigé par Lawrence Foster à 20h à l'Opéra Berlioz du Corum. Il vous en coûtera entre 18 et 45 euros tout de même. On danse avec Délier, une chorégraphie de Jackie Tafanel avec les danseurs Barbara Blanchet, Cécilia Ribaud, Clément Aubert et Denis Tafanel, avec une vidéo de David Olivari sur une musique de Thierry Gomard et José Barracina. Les anges dans l'imaginaire contemporain à voir à 19h à la chapelle, 172 rue du Joachim de Bellès, cité jolie à Figrolles. Il vous en coûtera entre 8 et 12 euros. Flamenco avec Qu'est-ce que tu deviens, un spectacle 2 est mis en scène par Aurélien Bory, chorégraphié et interprété par Stéphanie Foster sur une musique de José Sanchez à la guitare et Alberto Garcia au chant. C'est à 19h au Théâtre des 13 ans à Gramont. Il vous en coûtera entre 11 et 21 euros. Flamenco toujours et cette fois 7 à 7 avec le ballet Antonio Jades qui interprétera Fuenteo Veruna d'après l'œuvre de Lope de Vega à 20h30 au théâtre Molière, avenue Victor Hugo à 7. Il vous en coûtera entre 8 et 24 euros. Et puis la Zoupsy Comédie, une chorégraphie de Dominique Bovin et Dominique Ribaud pour 12 danseurs avec des costumes, de Christian Lacroix. Mais oui, à 20h30 au théâtre Le Cratère à Alès, il vous en coûtera entre 12 et 18 euros. Côté théâtre, c'est toujours L'étranger, le texte d'Albert Camus, adapté et mis en scène par Lydie Paris et Yves Gourmelan, qui se déroule à 19h au théâtre Pierre Tabar-Lacanale, 17 rue Ferdinand Fabre, pour un prix eh bien, s'échelonnant entre 8 et 13 euros. Cette fois, ce ne sera pas L'étranger dont il est question, mais du domaine étranger avec Alpenstock, une pièce de Rémi Devos mise en scène par David Lejar-Ruffet avec Charlotte Petita, Antoine Rosenfeld et Pierre-Étienne Royer. C'est un couple dans un pays aseptisé, perturbé par l'arrivée de l'étranger. À voir à 19h au Théâtre d'eau, route de Grabelle. Il vous en coûtera environ 12 euros. L'épopée 4 costumes en quête d'auteur poursuit sa course avec le spectacle qui a tué le dictateur Alenk. Sur les costumes de Françoise Astruc, Vincent Bioulès, Gabriel Mutel et Chantal Rousseau, d'après un texte de Jacques Bioulès mis en scène par David Stanley. C'est à voir à 20h45 au théâtre du Hangar, 3 rue Nozeran. Il vous en coûtera entre 8 et 14 euros. Ça risque d'être fandard, c'est le catch impro organisé par la compagnie BAO que vous connaissez si bien. Un petit catch entre les Twin Powers et les Décafardisateurs, arbitré par Monstress Sandrine. C'est à 21h au Kawa Théâtre, 18 rue Fouque, pour une entrée à 10 euros. Côté conférence, eh bien, ce sera une conférence sur Internet. Quel modèle économique pour l'information ? Avec Elodie Cohen, économiste et directeur de recherche au CNRS, et Pierre Yaski, fondateur du site Rue 89. C'est à 17h à la maison des étudiants Aimé Schoenging, espace Richter, avenue Raymond Dugrand. L'entrée est libre. L'État et la région, on en parle pas mal en ce moment. C'est une conférence sur la réorganisation des services de l'État dans la région, par Claude Ballant, préfet de la région Languedoc-Roussillon, dans le cadre des conférences de la PrEP ENA. Qu'est-ce que la PrEP ENA ? À vous de voir, de 17h à 19h à la faculté de droit amphi des rues de l'université. L'entrée est libre. Un bistrot des ethnologues sur le thème désorcelé, avec Jeanne Favret-Saada, anthropologue et psychanalyste. Et puis également la présence de... on ne sait pas, ce sera en tout cas rediffusé dans 2 semaines, le mardi 16 sur Divergence FM à 13h30. Ça se passe ce soir à 20h30 au Baloir, 21 boulevard Louis Blanc, il vous en coûtera 5 euros. Un café philo sur le thème « Nos amis, les bêtes ». On y pense peu, on s'y penchera à 20h30 à la brasserie du Dôme de avenue Georges Clémenceau, il ne vous en coûtera rien du tout. If you speak English, si te quieres hablar espagnol, en tout cas, toutes sortes de langues, mais surtout pas le français, ce sera au Dôme également, avec des rencontres et des échanges linguistiques, en espagnol, allemand, italien, portugais, russe, en tout cas, tout sauf français, à 20h, à la brasserie Le Dôme de avenue Georges Clémenceau. L'entrée est libre. Une conférence sur le théâtre à la Grande Motte, sur l'histoire du théâtre occidental du 19e et 20e siècle, du théâtre de la Révolution à Cyrano de Bergerac, animé par Jean-Pierre Albe, professeur d'histoire. Ça se tiendra à 18h30 au Centre culturel, place de la Mairie à la Grande Motte. L'entrée est libre. Côté livre, ce sera une rencontre avec les sociologues Laurent Muccielli et Véronique Legoisiou sur le thème « La violence des jeunes en question ». C'est organisé par la librairie Soramps. C'est le deuxième volet de cette manifestation. Ça se tient ce soir à 19h à la médiathèque centrale Émile Zola à Antigone. L'entrée est libre. Voilà, c'est tout pour les bons plans du jour. Sortez donc votre nez et vos fripouilles dehors. Allez voir si le froid vous anéantit. Tout de suite, on va écouter la nouveauté discographique de la semaine, c'est Microfilm. Microfilm, édité chez Ed Records. L'apparition de voix multiples empruntées au grand cinéma comme aux séries B et à leurs doubles images, entre paysages de western et bas-fonds d'une ville des années 50. Un voyage sonore s'offre à vous. Bonne écoute.
Oui, c'est ça. Un meurtre dans l'immeuble d'en face. Un homme d'environ 25 ans, un noir. Je viens de voir ça de ma fenêtre. J'habite dans l'appartement de l'autre côté de la cour.
questions. Je vous rappellerai mes réponses exactement.
D'écouter le deuxième extrait de l'album de la semaine Blood Sample du groupe Microfilm et le titre de l'album The Bay of Future Past. Il va falloir que je fasse des efforts en anglais. Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on reçoit Jean-Luc Pouget, qui est l'animateur des Amis du Journal de l'Humanité. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour.
On reçoit Pierre Schill, un professeur d'histoire et de géographie au lycée Jules Ferry à Montpellier.
Bonjour.
Bonjour. Et on reçoit aussi Benoît Larbiou, politiste. Hein. On demandait tout à l'heure la différence entre politiste et politologue. On va le savoir. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Et pourquoi vous êtes là? Alors, c'est parce qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose mercredi 3 et jeudi 4 février cette semaine à partir de 18h à la salle Guillaume Nogaret, espace Pitot à Montpellier. Eh bien, ce quelque chose concerne le débat identitaire et le débat citoyen. On est là pour parler d'une forme de contre-débat, on va dire. Donc, on ne peut pas dire que ce n'est pas un débat, mais en tout cas, c'est d'essayer de remettre du sens dans ce fameux débat lancé par la présidence de la République sous la houlette de notre cher ami Besson, car c'est notre ami à tous les Français, à toutes les Françaises, ce monsieur Besson. Vous organisez donc deux jours, les deux à partir de le mercredi et le jeudi à partir de 18h, deux jours autour de cette question de identité singulière française, etc., etc., etc. Qui veut commencer, par exemple alors on y va, Jean-Luc Pouget.
Mais je vais commencer parce que je pense que mes partenaires sont d'accord, puisque c'est les Amis du Journal Humanité avec Pierre Schill qui a initié ce débat. Moi, je voudrais être très court pour dire, dans ce que vous avez dit tout à l'heure, donner du sens, et je dirais du bon sens, à ce débat. C'est-à-dire qu'il y a un vent mauvais, très mauvais, qui souffle actuellement sur la France. Je voudrais donner un témoignage très court, si vous permettez. C'est le Midi Libre qui rapporte le débat qui a eu lieu à Montpellier avec la présence de notre député Domergue. Et qu'il dit, c'est Midi Libre que je cite, hein, c'est pas le journal L'Humanité, c'est bien Midi Libre. Ce qui fait monter le FN, ce sont les sifflets contre la Marseillaise au Stade de France. L'immigration musulmane met en question nos valeurs judéo-chrétiennes. J'ai les enfants, tels que vont les choses, on va vers la guerre. Et patatras, une seule intervention du public, la première, et voilà toutes les précautions oratoires du préfet Claude Ballant, toute la prudence matoise du député Domergue qui vole en éclats. Et on peut retrouver ce genre de propos malheureusement nauséabonds, très nauséabonds.
C'est les propos de qui que
les
vous avez cité là ?
Les propos de l'intervenant lors du débat avec Domergue et Ballant, qui ont mis à plat cette idée que c'est un véritable débat large, etc.
Tous aux abris, nous sommes menacés par le péril islamique.
Et puis, on peut retrouver, malheureusement, dans le site internet du ministère, la même chose. La religion catholique est minoritaire en France, c'est l'islam qui va dominer. D'après vous, il faut l'accepter un jour, c'est l'islam qui gouvernera et fera des lois, etc. Pourquoi pas la charia, supprimer les jours fériés catholiques, oui, mais si nous sommes laïcs, les supprimer purement et simplement, etc. Et n'oubliez pas, pour finir, de préparer la burqa pour vos femmes. On en est là aujourd'hui, ce débat, il sent mauvais, donc on a voulu donner une autre coloration, autre, c'est-à-dire que ce débat cache en fait que ce pays, eh bien, il accepte effectivement la diversité, il vit de la diversité, et ce débat cache le fait que ce pays vit une crise sociale profonde, et c'est ça le problème de fond. La ghettoisation, on en parlait tout à l'heure, les cités, tout ça c'est dû effectivement au mal-être des Français et dû à ce gouvernement. Je voudrais, si j'ai le temps, citer rapidement Lilian Thuram. Je crois qu'il définit très bien ce débat. Là, c'est dans le journal L'Humanité.
Un type footballeur, il est rare de voir un footballeur aussi intelligent.
Voilà. On lui pose la question sur ce débat et il dit la chose suivante, et moi je partage à 200%. Ce débat arrive à un moment bien précis dans la société. Face à la crise financière, on a trouvé le moyen de détourner l'attention sur l'objectif le plus important, la lutte pour la justice sociale. C'est une technique vieille comme le monde, divisée pour régner. Surtout, il leur faut trouver des boucs émissaires, créer des nous et des eux. C'est une façon de créer deux groupes antagoniques. J'espère que la société est assez mature pour ne pas tomber dans ce piège. C'est quoi l'identité nationale si ce n'est ce qui est écrit sur les frontons des mairies, liberté, égalité, fraternité. Des valeurs auxquelles il faut ajouter la laïcité et la démocratie. Le débat a glissé sur l'identité des Français. Or, il est impossible de déterminer cette identité-là, d'autant que chaque Français a la sienne propre et qui ne peut être que complexe. Voilà. Quelqu'un qui est un footballeur, qui a enfin le mérite de dire les choses tranquillement et de manière très constructive et très positive.
Alors on peut rassurer tout de suite Lilian Thuram en lui disant que oui, il y a une maturité dans le pays. On l'a vu avec le vaccin H1N1. La grande majorité des Français ne se sont pas fait un papa winner. Revenons à nos moutons et essayons de voir un petit peu de quoi il s'agit. Donc il est très clair que ce débat, c'est un débat qui vise à nous mettre devant le nez, comme ils ont bien l'habitude depuis quelque temps, des informations diverses et variées pour nous détourner de la réalité des inégalités sociales et criantes dans ce pays et de fustiger, bien disons-le clairement, tout le monde le sait dès le début, les populations qui viennent du Sud. On ne parle plus des rapports Nord-Sud. Pourtant, ils existent encore. Un déséquilibre est énorme et il est tout à fait normal. Il faut que chaque personne, moi en tout cas, c'est ce que j'annonce là, je le confirme, il est tout à fait normal que quand on crève la dalle au Sud, ben, on ait envie de venir au Nord. Après, faut-il s'organiser ? Oui, il faut s'organiser. Alors, revenons donc à ce débat. Vous allez avoir une différente table ronde. Peut-être Pierre Schill nous dire un mot de ce que quelle est votre position ? J'imagine qu'on est dans le même là.
Ben, écoutez, d'abord, pour revenir un tout petit peu aux deux soirées qui s'annoncent, elles sont construites autour d'interventions qui auront lieu, qui vont un peu justement apporter un cadrage un peu plus rationnel au débat qui en manque beaucoup. Et après, l'idée, malgré tout, c'est pas que de se limiter aux interventions de quelques personnes, c'est vraiment de lancer le débat. Et donc, il y aura des temps assez importants qui seront laissés pour débattre avec les personnes présentes. Il y aura aussi des moments culturels qui seront animés par des acteurs de la culture locale. Il y aura des moments de convivialité. Donc, ces deux soirées qui sont construites justement de manière très ouverte liberté conviviale. Je voudrais juste rebondir un peu sur ce que vient de dire Jean-Luc Pouget, en fait, sur la stigmatisation des immigrés, qui était déjà contenue en germe dès le départ par la puissance, entre guillemets, qui organisait le débat, c'est-à-dire le ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Donc déjà, ce ministère-là, la création d'un ministère qui accole ces deux termes, ces deux entités, pour montrer que l'immigration, quelque part, était quelque chose qui venait altérer l'identité nationale qui serait quelque part chimiquement pure avec les Français qui seraient aujourd'hui les descendants des Gaulois, pour ne pas remonter plus loin. Hein, la création de ce ministère-là, c'était déjà quelque chose qui était inédit dans l'histoire de la République et de son organisation. Un certain nombre d'historiens, notamment spécialistes de l'immigration, Gérard Noiriel par exemple, avaient démissionné de toutes leurs responsabilités dans des instances où le gouvernement intervenait pour protester contre cette création. Et donc, il était couru d'avance que le débat aille vers ces dérives-là. Et Jean-Luc citait tout à l'heure un intervenant de ce débat à Montpellier. Donc moi, j'ai réussi à y aller, même si tout était sur invitation et filtré à l'EAI, à l'école d'infanterie. Mais écoutez, je peux vous dire que le débat était absolument hallucinant. Et on a eu une succession d'interventions de la sorte. Et on peut dire aussi que le député Domergue n'a rien fait pour élever le niveau du débat, parce que lui aussi se plaçait complètement sur ce terrain-là. C'est-à-dire ? En expliquant. Mais écoutez, il a eu des propos, les journalistes présents ne les ont pas relevés, mais si ça avait été Georges Frêche qui les avait dit, c'est sûr que on aurait été, ça aurait fait la une des médias immédiatement, parce que quand il a introduit le débat, Domergue, parce que le préfet avait été dérangé par un coup de fil à ce moment-là, et donc il a pris la suite du préfet en expliquant qu'on avait du mal aujourd'hui à intégrer la dernière vague d'immigration. Donc il a clairement identifié la source du problème aujourd'hui de la France, en expliquant que eux avaient beaucoup de mal à être assimilés ou à s'intégrer au sein d'un peuple caucasien. Hein, donc il a employé des termes qui nous renvoient, et la
qui est spécialiste de la question. À quelque chose de très malsain, ça, le peuple.
Voilà, quand on disait que c'était un peu nauséabond, voilà.
Il y a de la race aryenne là derrière.
Voilà, Jacques Domergue, lui, il s'est complètement inscrit dans ce débat-là. Et après, on a beau jeu au gouvernement aujourd'hui de dire que le débat ne se limite pas à ça ou qu'on essaie d'aller au-delà. On fait tout pour qu'il se limite à ça. Voilà. Donc nous, on va essayer de faire les choses de manière tout à fait différente en inscrivant ce débat dans une perspective économique, politique, sociale et historique aussi, avec, on l'espère, des soirées riches autour de cette question.
Alors, il y a quand même quelque chose qui peut-être pas qu'on oublie, c'est que dans ce débat, il y a une sorte de... c'est presque un débat de religion, parce qu'il y aurait donc d'un côté les chrétiens, enfin, avec les cathos un peu devant, quand même, les protestants ont une autre démarche là-dessus. Donc, d'un côté, les chrétiens, puis de l'autre côté, les dangereux musulmans, là, qui sont en train de nous, vous savez, les envahisseurs qui nous envahissent, etc. Et on oublie que dans ce pays, on a surtout une majorité de gens qui ne croient qu'en l'univers, ou à soi-même. C'est-à-dire que la grande majorité, et souvent on l'oublie dans ces débats-là, sur la planète, et je le dis, il y a plus de personnes athées, voire agnostiques, que de gens qui ont un dieu. Ça, on l'oublie tout le temps, et on est tout le temps en train de parler des religions. Encore une petite virgule sur les religions. Pour Georges Frêche, un jour, les uns le traitent de sioniste, et puis l'autre jour, on le traite d'antisémite. Écoutez, qu'il s'amuse, de toute façon. Alors, Benoît Larbiou, politiste, hein, on revient sur la différence entre politiste et politologue. Un politiste, c'est quelqu'un qui est un politiste.
Voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas un politologue.
Voilà.
C'est une vieille différence qui c'est dans la structuration de la science politique entre, je vais être très méchant, entre les intellectuels mondains et puis les intellectuels un peu plus spécifiques.
Ouais, soyons méchants.
Voilà, qui essaient de s'appuyer sur des recherches de terrain plus que véritablement sur un savoir qui serait un peu transcendant et qui n'aurait pas besoin d'être étayé par des recherches de terrain. Voilà. Alors je voulais simplement revenir sur une chose qui a été relevée par Pierre Schill tout à l'heure. Quand on parle d'origine caucasienne, on pointe quelque chose de très problématique et qui se profile derrière le débat sur l'identité. Finalement, les êtres ne seraient pas définis par leur histoire, mais seraient définis par leur identité. Donc, on spécifie la différence d'une identité
par
nationale,
leur type, en fait.
Par leur type. Oui. Alors, déjà, tu as très bien relevé qu'effectivement, il y a plus d'athées, etc. Mais il y a aussi des athées, des agnostiques dans les pays musulmans, comme partout ailleurs.
Énormément. Voilà, donc, plus qu'on ne le croit.
Voilà. Donc, dans ces pays-là, on a une diversité de situations sociales, une diversité d'histoires, et on essaie de limiter tout ça à une identité, alors une identité nationale française contre des identités nationales subsahariennes ou sahariennes, etc. Et finalement, ce qui poserait problème, c'est pas tant la façon dont on accueille ces individus, mais ces individus eux-mêmes qui apporteraient des valeurs différentes, qui auraient finalement une constitution, une essence, parce que c'est un débat finalement assez essentialiste, une essence différente de celle de la France, finalement, et on les mettrait à part, et ils se mettraient à part. Alors, on a parlé des ghettos tout à l'heure, c'est assez symptomatique, et on revient sur tout ce qui a été dit à tort et à travers à partir de 2005, à propos des émeutes urbaines. On voulait définir la causalité et on voulait la chercher dans cette origine différente de ces populations-là, alors même que c'est un problème économique, social et politique et qui engage l'ensemble de la société française. On va dire que les gens qui vivent dans ces endroits-là se rangeraient finalement par affinité, alors même qu'on les oblige à vivre là-dedans, alors même que d'autres catégories de la population, les catégories les plus aisées, au contraire, elles se ghettoïse. Et elle cherche à vivre entre soi en essayant de limiter les interrelations avec d'autres catégories sociales, d'autres histoires. Et finalement, ce qu'on veut restituer ici, c'est que les êtres, je vais reprendre un petit axiome d'Erasme, les êtres ne sont pas nés, ils sont faits. Donc on veut restituer l'histoire sociale, l'histoire politique en lieu et place de ce débat nauséabond, comme il a été signalé tout à l'heure, identitaire.
J'ajouterai, rappelons-nous de ce que disait de Beauvoir à propos des femmes, on ne naît pas femme, on le devient. Eh bien, on pourrait appliquer ça à être français. On ne naît pas français, on le devient parce que, effectivement, avec ses différences, etc. Donc, je suis d'accord avec vous, ce débat est nauséabond et sur Divergence, on le trouve nauséabond. Mais sur Divergence, on a l'habitude de mettre les mains dans le caca et dans le cambouis pour essayer d'en ressortir des pépites. Alors les pépites, ben, écoutez, ça sera à partir de demain, mercredi 3 février à 18h. Un mot encore, il nous reste 2 minutes.
Alors 2 minutes, non, je voudrais, les pépites, elles sont là, je voudrais, si j'ai le temps, mais je pense que j'ai le temps, elle est très courte, citer la déclaration de Lula, président du Brésil, qui vient de le faire dans un livre, qui dit la chose suivante, Lula parle, nous sommes de la sorte une nation, il parle du Brésil, formée par les immigrants, une nation qui montre dans la pratique combien les différences culturelles peuvent contribuer à bâtir une société qui recherche en permanence l'harmonie et se bat avec vigueur contre les discriminations et les préjugés. Nous sommes non seulement un peuple de mélange, mais ce qui est plus important, nous aimons être un peuple de mélange. Parce que nous savons que nous tirons de ce processus de rencontre entre les cultures et entre les populations, notre identité, notre force, notre facilité au dialogue et notre ouverture à autrui, notre joie de vivre, notre créativité et notre talent.
Absolument. Un mot de plus, Benoît. Voilà.
Je voulais continuer dans les citations et situer Norbert Elias, qui était un des plus grands sociologues, qui a été exclu de l'Allemagne par les nazis et que la France n'est pas arrivée à intégrer. C'est un vieux débat. Et qui disait « L'exclusion et la stigmatisation des intrus sont des armes puissantes aux mains du groupe installé pour perpétuer son identité, affirmer sa supériorité et maintenir les autres à leur place. »
Un mot.
Oui, bah écoutez, ce que vient de dire Jean-Luc Pouget m'a fait penser à un spectacle que j'ai vu l'autre jour à l'Opéra Comédie où Mourad Merzouki a dirigé une compagnie de danseurs brésiliens. Ben voilà, là on avait un bel exemple de ce que c'était l'identité, le mélange et la puissance d'une nation qui ne se trompe pas de débat, elle.
Je rajoute simplement, le repas sera marocain, les chansons seront françaises. Voilà.
Et oui, ben voilà, hein, c'est super ça. Alors bon, on vous retrouvera, Jean-Luc Pouget, Pierre Schill et Benoît Larbiou avec d'autres personnes. Il y a une intervention d'Aziz Krishen, de Philippe Martel. L'un est économiste et directeur de l'association des Cévennes pour le loisir éducatif. L'autre est professeur à l'université Paul Valéry au département d'Occitan. Qui sait qu'on va retrouver encore Michel Fratissier, maître de conférence en histoire à l'UFM de Montpellier. Et puis, dites-moi encore, qui c'est que j'oublie, animé par Eric
et
Soriano.
Philippe Martel, peut-être.
Oui, il l'a dit.
Voilà. Pardon, alors, voilà. Bon, je le rappelle, c'est le mercredi 3, donc demain, à 18h, à l'espace Guillaume Nogaret, à l'espace Pitou à Montpellier, la salle Guillaume de Nogaret à l'espace Pitou à Montpellier, le jeudi 4 février, à la même heure, à 18h. Si mes informations sont bonnes, l'entrée est libre et gratuite. Pour le miam miam, il faut un petit donner une petite
presque rien.
Presque rien. Donc venez avec presque rien et avec avec toute votre intelligence et votre générosité, car vous le savez de toute façon, quand l'intelligence est au service de la bêtise, ça donne jamais des choses très intéressantes. Donc débat identité au pluriel française, mesdames et messieurs, et sur Divergence, nous on souscrit, on vous embrasse bien tous.
Son clocher, son école, sa place, ses cafés, son crédit agricole est juste à côté. Sa mairie fleurie, son microclimat, sa gendarmerie, pas de cinéma, son hôtel, le Lion d'Or, son camp de manouche. Quand la ville s'endort, pas de quartier louche, ses concours de pêche le long du canal, ses gens dans la dèche, son artiste local. Bienvenue à Rio. À vélo dans la rue centrale, le fils du veto, champion régional, ses chants, ses pylônes, à mesure qu'on s'approche, ses vieux aux dents jaunes et l'ombre des poches, son terrain de foot, ses méchouilles de septembre. Très souvent je redoute ce qu'on peut y entendre, ces petits commerçants, ces barouches qui aboient, ces adolescents qui ne reviendront pas. Bienvenue à Rio. Foireux, de père en fils, ces bouquets miteux.
Tous au poste, interview.
On écoutait Rio Baril de Florent Marquette. Tout de suite, on passe à notre deuxième volet de notre Tous au poste. Je suis en compagnie de Maya Fastinger. Bonjour.
Bonjour.
Qui nous présente Possible. Alors, Possible, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est 12 lieux, 13 artistes. Et puis, on navigue comme ça entre des performances, plutôt des arts visuels. Et puis, c'est également une pièce de théâtre qui s'appelle Kern, sur un texte d'Enzo Corman, qui sera donc diffusée au théâtre Jean Villard du 2 au 6 mars. Donc, Possible, c'est une exposition collective d'art contemporain. C'est une exposition collective qui est assez particulière, puisqu'elle invite les spectateurs à se rendre dans des lieux inattendus pour découvrir des arts visuels. Alors, quand je dis lieux inattendus, ça peut être autant un salon de coiffure que la piscine olympique d'Antigone, que la mission locale des jeunes à Figueroles. Voilà, ça regroupe vraiment des lieux
À la Mosson,
on dit à la Mosson. Alors, le parti pris qui semble émaner de cette grande exposition, ce serait plus l'art pour tous.
Ou ce serait plutôt que ça n'est pas un domaine réservé à un public qui a l'habitude de se rendre dans des lieux d'art. Mais aussi, c'est pour ce public-là, bien entendu, mais c'est aussi pour que Monsieur Tout-le-Monde puisse accidentellement rencontrer une œuvre d'art en allant, par exemple, effectivement, à la piscine ou chez le coiffeur.
Alors, qu'est-ce que ça suscite chez Monsieur Tout-le-Monde, à votre avis, de rencontrer comme ça une œuvre d'art au détour d'un petit plongeon dans une piscine ?
On ne le sait pas encore parce que l'expérience est en cours. Possible a démarré le 24 janvier dernier et toute la semaine dernière, il y a eu une série de vernissages, d'événements, effectivement, de performances et tout. Et maintenant, on a voulu que ça dure jusqu'au 15 mars pour que les choses aient le temps de se poser dans le temps, que les œuvres aient suffisamment de visibilité aussi. et que les lieux eux-mêmes se fassent le relais et prennent le temps de récolter peut-être les réactions du public.
Alors pourquoi récolter les réactions du public ? Est-ce que c'est dans une velléité de faire réagir, de surprendre le passant ?
C'est peut-être parce que nous, on a aussi un peu envie de savoir ce que ça produit, mais avant tout, ce qui nous importe, c'est qu'effectivement, il y ait une rencontre sensible possible, offerte dans des lieux qui ne sont pas faits pour au départ, dans des moments de la journée qui n'étaient pas aménagés pour, parce qu'il y a aussi des gens qui vont dans des expositions et qui vont aussi à la piscine ou chez le coiffeur, et qui... mais c'est juste, c'est un autre moment. Et c'est de créer, d'ouvrir des espaces où on peut réfléchir un peu, dialoguer, échanger, face à une œuvre d'art, ou prendre le temps de recevoir une chose de l'ordre de l'émotion, du sensible. Voilà.
Puis ça amène l'échange, puisque on se retrouve confronté à une œuvre d'art dans un endroit où on s'y attendait pas. Il y a comme ça peut-être on se dit tiens, qu'est-ce que ça fait là, et toi tu t'en penses quoi. Enfin, ça suscite aussi l'échange entre le public.
L'espère, oui.
Possible. C'est donc une manifestation artistique qui nous pousse peut-être aussi à imaginer, à rêver, à convoquer comme ça de l'humain dans des lieux un petit peu inattendu. Et donc, ça crée aussi un dialogue dans l'espace public. Peut-être un dialogue qui n'est plus, finalement, dans l'espace public en ce moment, actuellement.
Je ne sais pas s'il n'est plus, mais en tout cas, est-ce qu'il est vraiment suscité par ça actuellement? Nous, on a envie de le provoquer à cet endroit-là, en tout cas. Et effectivement, chaque artiste ou chaque œuvre d'art dans son lieu, après, porte les interrogations qui lui sont propres et les possibilités de dialogue, d'échange qui lui sont propres. Donc nous on a fait des associations d'idées comme ça, telle œuvre d'art dans tel lieu.
Comment ça s'est pensé, cette histoire?
On a fait un travail de commissariat d'exposition, c'est-à-dire qu'on a d'un côté choisi des artistes qui dans leur pratique questionnent quand même leur environnement, le réel, notre réel, notre présent, et en donnent une lecture qui est la leur et qui ouvre effectivement des possibilités de réaction ou de réflexion de la part de la personne qui reçoit, qui regarde. Et on a choisi des lieux, et après, par association d'idées, par cohésion. Pour certains, on a essayé aussi que l'artiste puisse travailler en lien direct avec le lieu. Comme c'est une première édition, on n'a pas pu le mettre en place pour tous, mais... Pour des prochaines éditions, ça serait peut-être l'objectif, que ça soit vraiment un travail des artistes en lien avec le lieu qu'on leur propose, avec un territoire, avec un quartier, avec...
On vous le souhaite, en tout cas. Il y a un rôle... est-ce qu'il peut s'en dégager de cette manifestation, un rôle social, de cohésion sociale ?
Pour nous, en tout cas, il s'agit effectivement de questionner à quoi peut servir l'art. Et pour nous, ça, c'est une possibilité de mettre un peu en recul, de faire une pause et éventuellement, de penser la société qui nous entoure au travers de la poésie, de l'émotion, du sensible, au travers des questionnements que les artistes amènent avec eux. Et pour nous, il devrait y avoir une fonction sociale de l'art. Après, est-ce que c'est vraiment dans l'air du temps, je ne sais pas. C'est pour ça qu'on a eu envie de poser la question là.
Dans l'air du temps, on n'a pas l'habitude de voir l'art dans la rue, ou alors on appelle ça du spectacle de rue. Ça se balade et ça voyage dans la cité. Mais on n'a pas l'habitude d'avoir des festivals qui introduisent des lieux comme ça publics. Et du coup, ça crée une relation au spectateur. Je ne sais pas ce qu'on pourrait appeler spectateur ou passant. Je ne sais pas exactement comment on pourrait l'appeler. Mais ça crée une relation assez particulière à lui, puisque le voilà comme participant. Il devient participant de cette chose parce qu'il la voit, il la reconnaît. Et peut-être qu'il s'interroge, peut-être qu'il rêve, peut-être qu'il imagine. Il y a de l'émotion, comme vous le disiez un peu plus avant. Il y a du sensitif, du sensible. Ça crée quelque chose comme ça de particulier avec le spectateur.
Pour nous, le spectateur fait vraiment partie du processus de création. Et effectivement, par rapport à Possible, ce qui est intéressant, c'est que ça peut aussi ne pas être vu par des passants ou par des spectateurs à certains moments. Et il y a cette prise de risque-là, effectivement. Ça dépend des lieux, parce que dans un lieu comme la piscine Antigone, qui est tellement grand, ça peut effectivement disparaître ou ne pas être visible. Dans un lieu comme le salon de coiffure, décoiffé, là, c'est un lieu qui est petit, où il y a la coiffeuse qui porte avec elle, Yasmina, qui porte avec elle l'œuvre d'art et qui, du coup, la fait vivre, la met en relation avec les gens. Et ça correspond aussi au temps d'attente qu'ils peuvent passer là. Et donc, il y a cette chose-là. Mais pour nous, ça fait complètement... C'est indispensable que le spectateur active. L'œuvre est là et c'est dans la rencontre avec le spectateur qu'elle prend sens.
C'est rare de voir ça. On a plus l'habitude de voir l'art quand on est dans des institutions, maîtrisé par des personnes, que ce soit des groupes d'artistes ou des groupes institutionnels. C'est rare que l'art se déclenche par la venue du spectateur, qu'elle prenne sens avec le spectateur. C'est assez rare qu'il y ait un échange comme ça, un vase concomitant assez libre.
Moi, je pense que c'est aussi possible dans des lieux d'art. Après, ça dépend comment c'est fait. Ça, c'est au cas par cas, quoi. Je pense que c'est complètement... Et nous, on n'est pas du tout en croisade contre des institutions de l'art, mais on essaie de faire une proposition un peu différente, effectivement, et aussi peut-être, effectivement, d'aller vers d'autres publics en allant dans des lieux un petit peu incongrus comme ça.
Alors vous faites résonner les arts visuels avec le théâtre, avec notamment Cairn, une pièce d'Enzo Corman. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ?
Oui, donc Cairn sera créé au théâtre Jean Villard du Dos au 6 mars. Et ça a été le point de départ de ce projet-là. Possible a été mis en place en résonance, même si ça apparaît avant dans le temps. Parce que dans Cairn, effectivement, s'affrontent deux façons de penser le monde. Une qui consisterait quand même à laisser la place à rêver autre chose, à se battre pour ça éventuellement, et à risquer beaucoup parce qu'on estime que ça vaudrait mieux. Et une autre pensée du monde qui serait plus... de l'ordre de toute façon c'est comme ça et il va falloir y aller et puis ça en arrange certains, et d'un côté il y aurait le monde réel et de l'autre le monde rêvé des poètes. Et nous on s'est positionné, même si Cairn ne parle pas en soi d'artiste, c'est pas les personnages ne sont pas des artistes, nous on s'est positionné sur ces questions là comme artistes, et dans Cairn on va donner notre vision de cette pièce là de Corman, qui inclut aussi pour nous, enfin la place du spectateur est aussi très importante, même si c'est du théâtre frontal dans les dispositifs, mais pour ça il faudra venir voir. Et voilà, de cette question-là, on a voulu, avec Possible et à travers les travaux d'autres artistes, chercher des propositions qui
rentreraient dans ces deux questions.
Voilà, est-ce que, et pour nous, au final, c'est la question reste, quelle place l'art peut avoir dans la société, quelle fonction ça doit avoir.
Avoir donc à méditer. Le collectif Exit, c'est quoi ?
Alors, le collectif Exit, c'est né récemment, mais il y avait Exit Compagnie avant, qui était donc une compagnie de théâtre. On s'est rencontrés avec Hélène Soulier, ça fait à peu près 3 ans qu'on travaille ensemble. Et pour nous, il a été nécessaire de se poser en collectif. Déjà, en étant là, le champ de nos actions, effectivement, à l'art contemporain, on s'est rencontrés sur des projets de théâtre. Et on continue au théâtre, mais en étant ça. Et parce que pour nous, de se positionner en collectif, ça signifie... que chaque personne qui plus ou moins ponctuellement va participer à ce qu'on est en train de mettre en place fait partie du collectif finalement, ou en tout cas de ses travaux. C'est un projet Cairn et puis Possible qui est né il y a quand même 2 ans, qui en arrive à une fin, en tout cas là, mais un aboutissement, mais... qui est né il y a quand même 2 ans et qui s'est construit au gré des rencontres, au gré des réactions des gens, avec des expériences, des fois dans l'espace public, déjà à Ganges par exemple, et qui s'est construit comme ça effectivement. Et donc les artistes par exemple de Possible font partie du collectif Exit sur ce projet-là. Enfin, ça, et c'est quelque chose qui du coup nous permet nous de rester en mouvement, en action, et de pas figer des choses, mais de vraiment continuer à mouvementer, comme on aime le dire, la création et du coup la pensée.
Et du coup de créer une œuvre d'art commune, en fait, qui engloberait aussi les passants, les spectateurs.
Exactement, qui font pour nous aussi finalement partie de ce collectif-là au moment où ils sont face à une œuvre. Ouais.
Les prochains rendez-vous de Possible, c'est quand ? Parce que là, tous les vernissages sont passés.
Oui, après, la plupart des expositions sont en place jusqu'au 15 mars, globalement. Après, il y a quelques petits... le 5 mars, on a une rencontre autour d'un verre à l'espace d'exposition du Théâtre Jean Villard, au Petit Ballot, à 19h. Et nous, on jouera à Cairn à 21h ce soir-là. Et après, bah voilà, toutes les expositions sont accessibles. Il y a un blog.
Oui, alors on va donner l'adresse du blog. C'est possible, au pluriel, 1.blogforever. Alors forever, c'est avec un 4 pour le for et ever, E-V-E-R.com. Possible, 1.blog4ever.com.
Voilà, donc il y a toute la programmation et c'est aussi un forum où, on se propose d'échanger avec les gens s'ils ont envie de réagir à nos propositions.
Ce qui peut être pas mal de voir un petit peu les réactions.
C'est aussi une plateforme d'échange entre nous, les lieux d'accueil s'ils le veulent, les artistes s'ils le veulent et donc les spectateurs s'ils le veulent.
Maya Fasslinger, merci d'être venue aujourd'hui nous parler de Possible.
Merci beaucoup.
Bruit de fond. Ce n'était pas bruit de fond, c'était notre Tout ce poste qui se termine. Et bien donc voilà, c'est ainsi que ce Tout ce poste se termine. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Demain, on retrouve d'autres rendez-vous à ce Tout ce poste. En première partie, et bien vous pourrez retrouver notamment, mon ordinateur ne marche pas, alors du coup je me penche du côté du tableau. On parlera des Climades avec l'ALE et puis en deuxième partie, on retrouvera les metteurs en scène de Qu'est-ce que tu deviens, un spectacle programmé au théâtre des 13 vents. Nous vous remercions de nous avoir écoutés sur le 93.9 de Divergence FM, la suite des programmes à 13h20. Vous retrouverez les Chameaux amers, les fabuleuses chroniques d'Olivier Notal et puis à 13h30, ce sera L'eau à la bouche. L'eau à la bouche, une émission sur l'environnement. À 17h, retrouvez Radio Homicide de notre laboratoire des horreurs humaines qui sera suivi de RFI, notre rendez-vous avec l'information internationale et la rediffusion de notre Tous au poste du jour. À 18h, ce sera l'hebdo du Sherpa ou le magazine culturel de David Beau. Nous vous laissons entre les mains des sédiments magnétiques pour la suite de nos programmes. À bientôt, ciao ciao, bye bye.